France Culture. Jacqueline Lafont, bonsoir.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, cinquième épisode de notre série, Le droit de la défense, changement de paradigme. Nous avons évoqué hier les grandes affaires politiques que vous avez eues entre les mains en tant qu'avocate, notamment le dossier Nicolas Sarkozy. Pour cette dernière émission, et en prenant appui sur vos 40 années de carrière et d'expérience et des grandes affaires que vous avez plaidées, quel bilan tirez-vous de l'évolution de la défense de ces dernières années? Quels sont les nouveaux enjeux pour vous dans votre métier d'avocate, avec des révolutions sociétales qui ont eu lieu, notamment MeToo, qui vous a valu aussi d'avoir de nombreux dossiers entre les mains, Jacqueline Lafont? Comment est-ce que vous voyez cette évolution de votre métier?
Alors, cette évolution, je ne la vois pas de manière très favorable. Vous parlez effectivement de tout ce qui a entouré ce mouvement MeToo, dont personne ne peut contester les aspects évidemment nécessaires et positifs. Et moi, la dernière, il est normal que la parole des femmes soit mieux prise en compte qu'elle ne l'a été pendant de longues années, ce contre quoi je me suis battue d'ailleurs, parce qu'il m'est arrivé aussi d'être partie civile et de défendre des personnes qui étaient confrontées à ce mur-là. Je l'ai vécu, je l'ai connu. Donc je pense qu'il y avait du bon dans ce mouvement, mais je n'ai pas entendu que ce mouvement existe pour m'insurger contre certaines dérives qui existaient. En revanche, puisqu'on parle de ce mouvement sociétal que vous évoquez, MeToo, je pense qu'il s'est accompagné de dérives que je pense inquiétantes, auxquelles il y a une adhésion finalement relativement forte. Il y a peut-être une dimension un peu générationnelle aussi, mais en tout cas une adhésion assez forte et sans réserve. Et ce que je trouve très inquiétant, c'est ce que j'évoquais déjà un petit peu avec vous, c'est que au prétexte de ce combat légitime, on n'hésite pas à sacrifier des droits fondamentaux. Voilà.
Il y a une sorte de concurrence des droits qui s'est installée, Jacqueline Lafont. C'est-à-dire au moment où vous démarrez votre métier d'avocate pénaliste, vous vous battez plutôt contre les prisons. Et ça correspond aussi à un air du temps de réflexion sur la prison, sur les conditions carcérales, sur la surpopulation, etc. Et vous arrivez à un autre moment où la punition est vue d'une autre manière.
Oui, la punition, elle est vue d'une autre manière, mais elle l'est, je dirais, vue d'une autre manière selon les cas. C'est-à-dire qu'il y aurait ceux qui devraient aller en prison et ceux pour lesquels le combat légitime contre la surpopulation carcérale pourrait s'exercer. Et en fait, ce que je déplore et ce qui m'interroge et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que l'on voit les mêmes qui seraient prêts à s'indigner de manière générale sur un certain nombre de sujets, notamment celui de la surpopulation carcérale et d'autres, qui sont les premier à venir demander la tête quasiment de personnes qui viennent demander et exiger que ces personnes soient bannies de la société. Les mêmes probablement qui viennent vous dire qu'ils sont contre la peine de mort et qu'ils se réjouissent de vivre dans un pays dans lequel la peine de mort a été abolie, qui viennent vous dire qu'il est normal que des personnes soient interdites de vivre, parce que c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Et en fait, ce sont les mêmes. Donc ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est encore une fois cette application sélective des principes. Les principes, on doit les défendre pour qui que ce soit, quelle que soit la personne que vous défendez, quel que soit l'acte qui a été commis par la personne que vous défendez.
Alors revenons au droit, Jacqueline Lafont. Que pensez-vous de la question de la prescription, par exemple, qui est une grande question qui revient avec MeToo?
Alors, ça fait partie de ces principes que l'on tente de faire voler en éclats. La prescription, il y a eu un très bel ouvrage qui a été écrit par ma consoeur Marie Dosé, qui s'appelle « Éloge à la prescription ». Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour les affaires de mineurs, cette prescription a été considérablement rallongée, ce que d'ailleurs j'accepte. C'est la loi, premièrement, et ensuite je pensais que pour des mineurs, il était important de pouvoir laisser le temps de pouvoir réagir à des faits très traumatisant, très marquant, qui pouvait être enfoui d'une certaine manière. Et donc, cette prescription très longue, elle existe déjà. Cette prescription qui est de 30 ans après la majorité, si vous voulez, qui est donc énorme, eh bien, cette prescription, on souhaiterait aujourd'hui qu'elle n'existe plus du tout. C'est-à-dire qu'on souhaiterait mettre ces faits qui sont absolument odieux, personne n'en disconvient évidemment, sous le même régime que finalement les crimes contre l'humanité. les seuls crimes qui sont imprescriptibles sont les crimes contre l'humanité. Or, la prescription, elle répond à un certain nombre d'autres principes importants. Vous parliez de concurrence des droits. Tout est toujours en concurrence dans les droits, dans la liberté de la presse. Il y a toujours des limites aux droits. Sinon, ces droits seraient absolus et finalement ne seraient plus des droits. Et donc, en l'occurrence, le droit à la prescription, c'est un droit qui permet le droit à l'oubli. Il y a des victimes qui réclament ce droit à l'oubli, qui réclament la possibilité de passer à autre chose. L'autre élément fondamental pour la prescription, c'est le dépérissement des preuves. On a le droit d'exiger qu'une personne soit jugée avec une capacité de se défendre ou qu'une plaignante...
Le temps peut faire disparaître les preuves.
Absolument.
L'empêcher de réunir
le dépérissement des preuves. Et puis, si vous voulez, cette idée selon laquelle il faudrait permettre aux personnes de venir porter devant la justice des plaintes sans limitation de durée est aussi une façon de les entraîner, elles, dans une vie qui sera tournée autour de ça, organisé autour de ça. Je pense que ces délais-là, ce sont des délais qui sonnent la fin de quelque chose, mais une fin positive. Une fin positive pour le prévenu, l'accusé, mais aussi pour la victime. Et je crois que ces principes-là, effectivement, on en demande finalement d'une manière totalement sélective pour ces faits-là, l'abrogation. Et je crois que c'est extrêmement dangereux.
Alors, on peut comprendre qu'il y a une forme aussi de violence à être limitée, mais c'est la différence entre un droit et finalement que le droit est obligé d'encadrer la majorité, de faire une sorte de balance.
Oui, c'est ça. Tous les droits sont encadrés. Je pense que la violence, pour moi, je vais vous dire franchement, la violence, pour moi, c'est de convaincre et de laisser subsister l'idée pour une victime qu'elle peut toute sa vie vivre avec cela, sans qu'il y ait un coup près, sans qu'il faut qu'elle se dise à ce moment « j'y vais ». Ça n'est pas aider la victime. Je pense honnêtement que c'est un mauvais prétexte, que c'est une façon de vouloir vivre dans une société que je trouve assez haineuse. La justice ne doit jamais être la vengeance, voilà. Et ces règles de prescription sont absolument nécessaires.
Alors, la question de la présomption d'innocence, vous y êtes confrontée d'autant plus depuis que les réseaux sociaux existent aussi. Il s'ajoute à d'autres dimensions qui sont déjà la publicité, la presse, etc. Donc, dimension publique du débat. Comment est-ce que vous voyez cette évolution de ce droit de plus en plus compliqué peut-être à préserver, Jacqueline Lafond?
Ce droit est en effet, je trouve, en déclin. En déclin avec ce constat que je fais, que je trouve triste et encore une fois inquiétant, d'une espèce d'approbation qu'il y aurait des dérogations à ce droit. Pour moi, le droit à la présomption d'innocence, c'est un des droits que je mettrais au sommet de la pyramide. On a déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est ce qui doit guider totalement notre procédure pénale.
À cause du risque d'erreur judiciaire.
À cause du risque d'erreur judiciaire et parce qu'il y a un principe fondamental qui est celui de la charge de la preuve. Tout ça est très lié. C'est-à-dire que la preuve, vous ne pouvez pas rapporter la preuve de votre innocence. C'est une preuve négative. Donc, c'est à l'accusation de rapporter la preuve de votre culpabilité. Et moi, je voudrais vous donner un petit exemple, presque un petit exemple de la vie ordinaire d'aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été appelée par une magistrate que je connaissais pour des raisons strictement professionnelles et pas en dehors de cela, qui m'appelle affolée en me disant qu'un homme qu'elle connaît très bien vient d'être placé en garde à vue pour des histoires d'attouchement sexuel dans un train. En fait, cet homme participait avec d'autres magistrats à une commission sur la justice, d'ailleurs. C'était un ancien ingénieur qui avait été expert toute sa vie et qui, tous les 15 jours, se rendait à Paris pour venir participer à cette commission. Et à la sortie du train, un jour, il arrive à cette commission et il est interpellé par des policiers qui l'emmènent en garde à vue et qui lui disent « Monsieur, vous avez agressé sexuellement la jeune femme qui était assise à côté de vous dans le train ». Donc évidemment, le ciel lui tombe sur la tête. Il nie farouchement avoir commis quelque agression sexuelle que ce soit. Et il commence à se dire et à dire « Peut-être que nous l'avons assisté en garde à vue. Mais je ne sais pas, j'ai peut-être en ramassant mon cartable effleuré son genou, à essayer de lui-même de trouver une explication raisonnable et cohérente à cela ». Et finalement, au bout de quelques heures, on le place dans sa cellule, sa femme est affolée, ses enfants aussi. Cette magistrate qui me contacte me dit « mais c'est absolument impossible ». Et au bout de quelques heures, les policiers se rendent compte que la jeune femme qui avait déposé plainte contre lui, en était à sa troisième plainte dans trois commissariats de police différents, exactement pour les mêmes faits, exactement dans le même train qu'elle prenait chaque semaine. Et là, ils ont commencé à comprendre que cette jeune femme, effectivement, mentait, pour des raisons qui nous échapperont toujours.
C'est difficile à comprendre de l'extérieur, parce qu'il existe tellement d'affaires réelles,
mais
Jacqueline
oui,
Lafont.
C'est bien ça, la présomption d'innocence. C'est qu'il existe, bien sûr, beaucoup plus d'affaires réelles. Mais il existe aussi celles-ci. Et c'est celles-ci qui doivent nous guider pour pouvoir défendre la présomption d'innocence. Et si vous voulez, l'affaire ne se termine pas là. Parce que il se fait que cette jeune femme, heureusement, elle n'en était pas à sa première accusation. Ce qui l'a sauvée, d'une certaine façon. Parce que après, vous êtes en face de la sempiternelle question. Mais enfin, pourquoi est-ce que cette personne dirait cela? Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas s'il a la réponse aujourd'hui. Et ça ne s'est pas arrêté là. Donc les policiers lui ont annoncé la fin de sa garde à vue. Et finalement, ils lui ont dit, mais écoutez monsieur, en fait, pendant votre garde à vue, on a confronté votre portrait. Vous ressemblez étrangement à un portrait robot d'un petit garçon qui a été touché par un homme dans un bus il y a quelques jours à Paris. Donc il repart dans un autre commissariat.
Comme un agresseur de petit garçon.
Agresseur du petit garçon dans le bus. Donc il repart. Bref, on appelle sa femme. Et ce jour-là, il était à Bordeaux. À l'heure précise, vous voyez, ça me rappelle une autre histoire. Il était en train d'acheter les voyages pour les 25 ans d'anniversaire de mariage qu'il voulait fêter avec son épouse. Et il achetait des billets pour ce voyage-là. Et donc, on a pu prouver que ça n'était pas vrai. Mais vous voyez, cet engrenage-là, il existe aussi parfois. En fait, il a fallu apporter la preuve contraire. Et je trouve que cet exemple-là, c'est une petite affaire qui s'est très bien terminée. Enfin, après, quand même, 2 jours de garde à vue assez traumatisante tout de même. Mais vous avez là encore la démonstration, qui est encore plus flagrante que n'importe quel beau discours sur la présomption d'innocence, que ça existe. Et parce que ça existe, même si c'est plus rare que des accusations qui sont des accusations qui reflètent la réalité, la présomption d'innocence, on doit se battre. Et nous, les avocats, nous avons une responsabilité majeure pour la défendre.
Est-ce que vous avez le sentiment que d'autres droits sont en danger, Jacqueline Lafont ?
Je pense que... Toujours dans ce registre-là, du procès équitable, du secret professionnel des avocats et de leurs clients, de l'égalité des armes avec ce qui est prévu pour les dossiers coffres. C'est quand même une atteinte fondamentale à l'égalité des armes d'avoir un dossier dans lequel on nous cache une partie de l'enquête. C'est une régression que je trouve absolument incroyable. Encore une fois, on a déjà été confronté à ça, mais normalement, ça aurait dû être sanctionné. Donc, il y a, comme ça, beaucoup de choses qui évoluent pas forcément dans le bon sens.
La diffamation.
Alors, si vous voulez, c'est extrêmement difficile de critiquer cela parce que, évidemment, c'est comme les atteintes aux jeunes enfants et aux femmes et aux hommes. Qui pourrait être contre cela? Qui pourrait ne pas se battre violemment contre cela? En tout cas, sûrement pas moi. Et la liberté de la presse, moi, c'est quelque chose que je défends profondément. Mais encore une fois, là, on se retrouve dans une concurrence des droits. C'est-à-dire qu'elle doit être confrontée à des limites qui sont, à mon avis, aujourd'hui assez sensiblement dépassées lorsqu'on est dans un sujet d'intérêt général. La jurisprudence européenne est claire, on peut, en gros, écrire tout ce que l'on veut. On peut se tromper, on peut quasiment accuser à tort. À partir du moment où on est dans un sujet d'intérêt général, eh bien, il y a la liberté de la presse qui prévaut. Je pense qu'on est dans un mauvais équilibre des droits, au point que aujourd'hui, quand des clients me demandent d'intenter des procès en diffamation, je les dissuade le plus souvent de le faire parce que je sais que c'est perdu d'avance. Et c'est presque un recours qui n'est plus un recours effectif aujourd'hui. Et lorsqu'on nous oppose à nos plaintes sur le déclin de cette présomption d'innocence, mais écoutez, vous n'avez qu'à attaquer en diffamation, en réalité, c'est très facile.
On pourrait opposer les chiffres,
et je pense que les chiffres sur ces affaires-là sont absolument éloquents. C'est-à-dire que c'est un recours qui n'est quasiment plus un recours effectif.
Comment est-ce que vous vous débrouillez, Jacqueline Lafont, avec ce risque, en termes d'image, de défendre, dans les affaires MeToo, Nicolas Hulot, Patrick Poivre d'Arvor, et d'être, d'une certaine manière, la femme avocate qui défend ces hommes-là? Alors, vous parlez de votre vocation de défendre les hommes quand ils sont seuls contre tous. C'est une situation fortement inconfortable, on imagine. Jacqueline Lafont, comment vous vous débrouillez avec ça, d'être d'une certaine manière l'avocate des affreux, avec des guillemets?
Alors, j'ai très souvent dans ma vie été l'avocate des affreux, et puis je le suis aussi quand je défends un patron du CAC 40, pour certains en tout cas, ou quand j'ai défendu, quand j'étais plus jeune, on en a parlé, des trafiquants, des violeurs, etc. Mais encore une fois, on ne défend pas l'acte, on défend les hommes dans une justice qui devrait être fière d'avoir une défense qui existe, voilà, et dans un pays qui devrait être fier d'avoir une justice dans laquelle les avocats ont une force de défense. Et donc, je me débrouille avec ça. Parfois, c'est un petit peu dur, hein, encore pas exagéré, tout est relatif non plus.
Ça vous vaut des critiques, ça vous vaut des attaques, ça vous vaut des injures.
Oui, ça m'a valu quelques envois anonymes très désagréables, quelques envois parfois un peu menaçants, quelques mises en garde. Et puis, ça me vaut aussi des mises en garde affectueuses des gens qui m'aiment, quoi, d'amis très proches.
Des inimitiés ?
Écoutez, inimitié, je ne pense pas. Enfin, mes amis, en tout cas, les amis, en fait, les vrais amis, on n'en a pas tant que ça. Ce que l'on dit derrière moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, on a pu vouloir me cataloguer comme l'avocate des personnes qui étaient mises en cause dans les affaires dites MeToo, comme on a voulu nous cataloguer comme les avocats de Sarkozy, donc du pouvoir, ou quand j'ai défendu Benalla. Vous savez, c'est tellement plus facile qu'on essaie de vous mettre dans des cases, parce que ça dérange finalement une défense libre. En réalité, la défense que j'exerce, elle est totalement libre. Elle est la même quand je défends un Alexandre Benalla. Elle est totalement indépendante et libre. Je ne fais partie d'aucun cercle, d'aucun réseau, d'aucun parti politique. J'ai toujours choisi ça. Je ne suis pas à l'ordre des avocats. Je suis en dehors de tout ça. Ma seule volonté, c'est d'exercer mon métier.
Donc, vous êtes courageuse, Jacqueline Lafond, pour être avocate de ce genre d'homme.
J'ai défendu tellement de gens formidables qui ont été résistants et j'ai eu dans ma famille que je ne pourrais pas dire courageuse, parce que je trouve que franchement, non, le mot
c'est
est
plus
peut-être
facile
trop
du
fort.
Côté des victimes.
Non, c'est pas ah oui, ça c'est plus facile. Ça c'est plus facile, ouais. C'est sûrement plus facile, mais vous avez raison, de temps en temps c'est inconfortable. Je vous dis, même des gens qui m'aiment et que j'aime qui m'ont dit, mais arrête, tu vas être assimilée à cela. Et en réalité, c'est fou, mais ça me donne toujours encore plus envie de défendre les personnes que je défends. Et en fait, ça n'a jamais fait que me renforcer dans ma détermination. Vous voyez, c'est comme quand j'ai voulu être avocate et que je me suis battue contre un certain nombre de choses. Ça me renforce dans l'idée que, oui, je suis très heureuse de défendre Patrick Poivre d'Arvor. J'ai une cliente, un jour, dont je m'étais occupée, qui était venue me voir pour une affaire dont je ne parlerai pas parce qu'elle est également publique, mais... J'étais de l'autre côté parce que je suis des deux côtés.
Vous défendez aussi des victimes.
Bien sûr, bien sûr. Et elle m'a écrit un jour en me disant que c'était un peu compliqué pour elle, comme j'avais accepté l'avocate de Patrick Poivre d'Arvor, que je continue à être son avocate. Et j'ai été très déçue parce que c'est une personne dont j'appréciais l'intelligence. Et j'ai trouvé que c'était une façon de ne pas comprendre le métier que je faisais, d'être complètement à côté de la plaque en réalité.
C'est une situation éthique et intellectuelle presque... philosophique,
oui,
que de ne pas rejeter des dossiers. Il y a quelques dossiers que vous ne prenez pas quand même. Vous avez défendu en début de carrière des gens accusés de terrorisme, par exemple. Vous n'en défendez plus, Jacqueline Lafond.
Non, alors d'abord, ils ne viennent plus tellement me voir. Mais je pense qu'il y a aussi des choses en vieillissant, avec les années qui passent, que l'on fait moins. Et il en est de même dans le métier que l'on exerce. Par exemple, il m'est arrivé il y a quelques années, un homme qui était accusé de violence sur un enfant. Et franchement, je ne me suis pas sentie la force de le faire. C'est aussi un moment un peu, ce sont des procès durs, hein, même quand on est du côté de, et surtout peut-être d'ailleurs, quand on est du côté de l'accusé, du mis en cause, on sort pas totalement indemne de ces procès. Ce sont des procès où on est confronté au regard des parents, à la violence, à l'horreur. Enfin bon, pour moi, il n'y a rien de plus sacré au monde que des enfants. Donc, je ne me sentais pas la force de le faire. Et en même temps, ce n'est pas ce que je préfère dans ma façon d'exercer ce métier. C'est-à-dire d'être un peu sélective aujourd'hui sur des dossiers que j'accepte. Et je trouve formidable que des avocats soient là pour se lever, pour défendre toute personne qui doit être défendue.
Alors parfois, il y a des contrastes entre les affaires, la noirceur de certains dossiers... Et la rencontre avec les accusés, vous avez, il n'y a pas si longtemps, été avocate d'un homme accusé lors des affaires des cités nord de Marseille. Et parfois, il y a des rencontres étonnantes pour vous, Jacqueline Lafond, avec certains clients.
Oui, ça fait partie des quelques procès d'assises que je continue à accepter. J'ai effectivement défendu un jeune homme. Il avait 32 ans à l'époque, devant une cour d'appel d'assises dans le sud de la France. Il avait fait appel à moi avec un de mes confrères du sud de la France pour la défendre en appel. Et en fait, j'ai plongé dans l'univers des cités nord de Marseille. Et rien que pour ça, si vous voulez, je trouve que vous ressortez de ces procès plus intelligents. C'est-à-dire que vous comprenez ce qui est en train de se jouer dans ces quartiers-là. C'est un dossier dans lequel on voyait qu'il y avait des milliers de transactions par jour, une organisation très pyramidale, une économie parallèle incroyable. Je crois que les recettes journalières étaient de 60 000 euros par jour. Enfin bon, on plonge dans ce monde incroyable. Moi, c'était au-delà même, je lis la presse, je m'intéresse à tout cela, au-delà même de ce que je pouvais imaginer. Donc, c'était en soi très intéressant et je défendais quelqu'un qui avait 32 ans et qui avait déjà passé 16 ans de sa vie en prison. Et c'était un garçon à qui des faits très graves de violence avaient déjà été reprochés, qui était mis en cause dans une affaire d'assassinat dans laquelle je considérais qu'il y avait un vrai doute, qui avait été élevé par une mère seule, alcoolique, violente. Et c'est vrai que dans ces affaires-là, en général, les parcours sont souvent assez tragiques quand même. Il faut pas oublier de le dire non plus parce que c'est souvent vrai. Puis il y a aussi ceux qui, avec ces parcours, s'en sortent. Ça existe aussi, hein. Mais en tout cas, il avait une vie absolument épouvantable. Et il était d'une gentillesse, mais absolument incroyable, quoi. C'était un moment compliqué pour moi, il le savait. Il était d'une délicatesse, d'une gentillesse. Et je me disais, mais comment est-ce que c'est possible, quoi? Cette violence inouïe dans laquelle il a vécu, à laquelle il avait participé, il avait été condamné plusieurs fois. Il y avait en lui quelque chose et je me disais, mais en fait, ce quelque chose est là, quoi. Ça existe quand même, quoi. Il y a, c'était un peu
clivage.
Il y a ce clivage. Et en même temps, l'autre part était vraiment réelle, quoi. C'était pas, il y a ceux qui font la comédie, on a l'habitude de faire la différence. Et ce que j'ai trouvé très dur, c'est que il n'a pas bénéficié du doute. Et j'ai eu un avocat général remarquable en face de moi, remarquable parce que intelligent et efficace. Et en réalité, il n'a même pas plaidé la culpabilité et la démonstration. Il a plaidé le parcours de ce jeune homme et le fait que, de toute façon, s'il n'était pas condamné pour ça, il avait forcément commis autre chose. Il a fait peur au juré. Vous savez, on a souvent accusé Éric Dupond-Moretti de faire peur au juré, mais là, je peux vous dire que l'avocat général, c'est la méthode qu'il a employée, avec beaucoup de tact et d'intelligence. Et il a été condamné. Je pense qu'il n'a pas bénéficié d'un doute, parce que qui aurait pu lui bénéficier, parce que, très franchement, je ne connais pas la vérité, parce qu'en réalité, je ne la connais souvent pas plus que les magistrats. Mais je pense qu'il y avait un doute et qu'il n'en a pas bénéficié pour la raison que je vous dis.
Il y a quelque chose de terrible dans certaines décisions, ou dans le fait que, on parlait tout à l'heure de la présomption d'innocence, et que le fait que finalement la relaxe ne paye pas autant qu'elle pourrait le faire, d'une certaine manière, dans sa volonté de réhabilitation, en tout cas, voilà, de blanchir.
Aujourd'hui, ce qui est absolument incroyable, c'est que relaxer ou jamais condamner. Parce que les personnes qui ont finalement quelque part la malchance de ne pouvoir être jugées parce que les faits sont prescrits, c'est-à-dire que ceux que la loi interdit de juger, on considère qu'ils ne sont pas éligibles à la présomption d'innocence. Voilà. Et ceux qui sont relaxés aujourd'hui, comme ils le sont au bénéfice du doute, eh bien c'est qu'ils ne seraient pas innocents. Je trouve que nous sommes là dans une espèce de régression absolument terrifiante et incroyable. C'est-à-dire que il n'y a plus de place pour rien. Vous n'êtes pas jugé, mais finalement, vous avez pu être coupable. Et vous êtes relaxé, oui, vous êtes relaxé, mais c'est qu'on n'a pas pu trouver la preuve de votre culpabilité. On en est là aujourd'hui.
Alors, écho de ça dans l'affaire Dupond-Moretti que vous avez défendu devant la Cour de justice de la République.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est un bon exemple d'une illustration de cela. Il y en a malheureusement de nombreux autres. Éric Dupond-Moretti a été relaxé par la CJR. C'est une relaxe importante parce que je défendais quand même le garde des Sceaux en exercice, ce qui n'était pas banal devant la Cour de justice de la République. Les médias, de manière unanime, l'avaient déclaré coupable avant qu'il ne soit jugé. C'est un autre sujet quand même important, hein, celui du jugement avant tout jugement, en réalité.
Et le tribunal médiatique.
Le tribunal médiatique, voilà, une appellation un peu galvaudée, mais la réalité, c'est que
les médias ne l'avaient pas jugé par avance, mais...
Oh, Écoutez, enfin, regardez bien les articles de presse de l'époque. Il était déclaré quasiment coupable avant d'avoir été jugé. Ce n'est ni le premier ni le dernier à qui ça arrive. Mais bon, il y avait évidemment une très forte présence médiatique à ce procès. Et je crois qu'il y a une forte déception pour un certain nombre de personnes parce qu'il a été relaxé et il a été... On reprochait à Éric Dupond-Moretti d'avoir voulu finalement régler ses comptes avec des magistrats qu'il avait connus en tant qu'avocat. Et il l'a été parce que tout démontrait dans le dossier qu'il était très éloigné de cette pensée-là et que la réalité est qu'il n'avait fait que faire suivre la vie normale de dossier qui avait été ouvert avant son arrivée au ministère de la Justice. Et c'est vrai que malgré cela... On a critiqué cette décision. Alors moi, je ne suis pas de ceux et de celles qui pensent qu'on n'a pas le droit de critiquer les décisions de justice. Je trouve qu'on est dans un pays où la liberté d'expression est suffisamment large pour qu'on ait aussi le droit de critiquer des décisions de justice. Mais en réalité, ce qui n'était pas supporté, c'est que ce garde des Sceaux qui n'avait pas été accepté par les magistrats, il y avait quand même une espèce de confusion des genres, hein, quand on parle de séparation des pouvoirs. Manifestement, ce choix de l'exécutif ne plaisait pas aux magistrats. Eh bien, il y a eu un grand regret de cela et une contestation de cette décision qui a été beaucoup moins relayée dans cette relaxe qui a été rendue que n'ont été les centaines et centaines d'articles disant que finalement les dés étaient joués et jetés le concernant.
Malgré tout, elle ne lui a pas coûté son poste.
Non. Allez, ouais. Et je dois dire que nous avons là encore un exemple de l'importance fondamentale de la présomption d'innocence. Et je pense que ça, c'était une décision courageuse, c'est-à-dire de résister à cette pression. Il y avait une pression pour cela. Et le résultat montre qu'il était normal de ne pas suivre cette pression-là. Et c'est un bel exemple de respect de la présomption d'innocence.
Quel est votre plus beau souvenir humain de relax, Jacqueline Lafont?
Il y en a beaucoup. Ça peut paraître prétentieux de dire ça, et ça n'est pas vrai parce que j'ai plaidé tellement d'affaires que heureusement que j'ai eu des relax. Vraiment, j'ai des milliards d'images qui me viennent, mais j'en ai une qui est très particulière parce que j'étais à la fois heureuse et très triste. Il y a beaucoup d'anonymes aussi pour lesquels les relax ont été très importantes, les acquittements pour moi, évidemment. Mais celle-ci dont je vais vous parler, c'est une relaxe qui a été prononcée par la Cour d'appel. En fait, je défendais Charles Pasqua dans un des dossiers dans lesquels je le défendais. Il avait été condamné en première instance dans un dossier qui s'appelait le dossier de la Fondation Hamon, un problème de détournement de fonds publics, d'accusation de détournement de fonds publics. Il avait été condamné en première instance. Je l'ai défendu en appel. Il était très là, très fatigué, très usé, parce qu'il avait perdu son fils unique. Et j'essaie de le pousser pour qu'il continue à avoir l'envie de se défendre, parce que pour se défendre, il faut quand même en avoir envie. C'est quelque chose d'assez usant, d'assez épuisant physiquement, psychologiquement. Et je crois qu'il n'en avait tout simplement plus envie, mais je savais que c'était important, donc je l'ai défendu. Et en fait, il est mort avant le délibéré. Il est mort entre le moment où l'audience a été terminée et le moment où le délibéré devait être rendu. Et j'avais plaidé la relaxe vraiment à fond. Je trouvais qu'on avait un dossier dans lequel il méritait la relaxe. Et le matin de l'audience, j'étais à mon cabinet. J'avais envoyé un certificat de décès. Et le président de la cour d'appel m'appelle. Et il me dit « Maître, est-ce que vous serez à l'audience cet après-midi ?» Je lui dis « Non, monsieur le président, je vous ai envoyé, vous avez bien reçu le certificat de décès. » Il me dit « Mais oui, bien sûr, mais écoutez, je pense que ce serait utile que vous soyez là. » Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont quand même le condamner? Je comprenais pas. Donc, je viens au délibéré de la cour d'appel de Versailles. Et le président lit son délibéré. Il relaxe les personnes qui étaient présentes. Et à la fin, il se tourne vers moi et il me dit, si Charles Pasqua avait été là, évidemment, il aurait bénéficié de la même décision. Donc, c'était une relaxe qui était à la fois merveilleuse, que je me disais, j'espère qu'il voit ça, et qui était en même temps très triste parce qu'il n'aura pas vécu cette dernière relaxe.
Merci Jacqueline Lafont. C'est la fin aujourd'hui de notre série. C'était À voix nue avec Jacqueline Lafont, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Benjamin Troncin, réalisation Anne de Pelchin, une série disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.